Hey, ceux qui se demandent pourquoi dimanche passé l'après-midi, il n'y a pas eu de message, je sais pas ce que j'ai fait avec la machine, mais j'ai pas dû payer sur le piton comme il faut ou je sais pas trop quoi. Quand j'ai fini le message, il y avait pas de message, il y avait pas la... Donc c'est ça. Mais là, ça dit bien, ça dit REC. REC, c'est record. Ça record, comme on dit, hein? Un record, mais le record. Mais là, ça record. Donc, on est dans 1 Corinthiens, au chapitre 2. On a déjà lu le chapitre dans son entièreté. On va le réviser. Là, juste pour le besoin de la cause, j'aimerais juste lire le verset 9. C'est tellement beau. 9 et 10. Et c'est une citation de M. Ésaïe. Ça nous dit au verset 9, « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Seigneur, on vient à toi qui sonde les cœurs et qui est celui qui révèle les choses. Et on te prie, Seigneur, que tu révèles ton Fils bien-aimé à chacun des cœurs ici. Merci que tu connais ceux qui t'appartiennent. S'il y en a ici qui ne sont pas encore passés de la mort à la vie, qui ont encore leur état en Adam, qui n'a jamais encore changé, on te prie qu'aujourd'hui tu les visites, tu les convainques de péché, de justice et de jugement, afin qu'ils invoquent ta miséricorde pour le salut de leur âme. Et pour nous, ton peuple rassemblé, Seigneur, on vient à toi dépendant. On veut entendre les paroles de vie. Parce que tes paroles, c'est notre vie. C'est notre joie, notre réconfort. On vient à toi, on veut entendre ta douce voix. Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur à ce que tu as à nous dire. Oui, Saint-Esprit, enseigne-nous, dirige-nous dans toute la vérité. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Un très beau passage de la parole. J'aime beaucoup les épîtres aux Corinthiens. Vous savez, j'ai un problème avec la Bible, un problème quand même assez sérieux. J'ai de la misère à trouver... je fais pas de favoritisme, moi, avec la Bible. J'ai de la misère à trouver des préférés. Et souvent, ce qui arrive typiquement, c'est que quand que je plonge mes regards dans un livre, que vraiment je prends le temps de le regarder... Ah là, il y a tellement des choses merveilleuses, ça devient mon préféré. Pour ça, fait que, je suis inconstant dans toutes mes voies. Est-ce que je suis irrésolu? Je sais pas trop. Mais si j'ai quelque chose de, j'ai bien la misère à trouver un préféré. Mais savez-vous quoi? C'est un heureux problème. Je suis émerveillé tout le temps de toutes les pages de la Bible. Puis juste un petit témoignage en commençant. Quelqu'un qui est pas encore converti, mais qui est vraiment proche du Seigneur. Je partageais ça avec Jim John. À Donnacona, il me disait, il a commencé dans Genèse, puis là, Genèse, puis après ça, on tombe dans l'Exode, puis là, il y a toute la description du tabernacle et tout ça, puis là, il dit, je suis rendu dans Lévitique. Mais Dieu, il parle à travers ça. Il y avait des questions là-dessus, il dit, tout ça pointe à Christ, le sacrifice ultime, l'agneau de Dieu. Pour dire, Dieu, toute sa parole, il peut s'en servir pour... Puis ceux qui connaissent frère Maurice Fleury, le seul et unique... Ah, venez, je me rappelle, il était là. Puis, lui, quand il donne son témoignage avec ses expressions, il vient du nord de l'Ontario, donc il a une façon de parler bien particulière. Puis, il dit, « Hey, Lévitique, ça m'a-tu parlé, ça? Ouais, ça m'a remis à ma place. » Puis, « Ah oui? Ah oui? Et Dieu peut faire ça. » Parce que souvent, il y a des places là-dedans, ça parle des tatous, je sais pas trop. Puis, il dit, « Hey, j'ai des tatous, moi? » Puis, je me rappelle plus exactement c'était quoi, mais... La parole de Dieu, elle est vivante. Et plus tranchante, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, le passage qu'on a lu tantôt, on vient juste de lire deux versets. On va lire à travers le message plus de versets. Il est vraiment merveilleux, fascinant, surtout quand on comprend son contexte culturel et biblique. Et je vais juste prendre le temps de vous expliquer ici, c'était quoi l'intention du Saint-Esprit, qui est l'auteur, et de l'écrivain, de Paul, en écrivant ces choses, et comment ça pouvait être reçu aussi de la part des Corinthiens qui étaient de culture grecque. D'abord, il faut comprendre que la culture grecque était, je dirais, obsédée par l'idée de la sagesse. Ils cherchaient la sagesse, l'homme parfait, l'homme ultime. Puis il y avait toutes sortes de mythes qui allaient avec ça et tout ça. Et c'est pour ça que Paul, bon, il les connaissait, cette culture. Paul était un homme non seulement versé dans les Écritures, mais il connaissait bien aussi la culture de son époque. Et il leur parle, bon, on n'a pas lu ça aujourd'hui, mais dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, à l'ouverture de cette épître, il leur parle de sagesse, puis il leur parle, bon, de la prédication de la croix qui est une folie pour ceux qui périssent, que les Grecs demandent la sagesse, les Juifs un miracle. Puis il nous dit surtout que, au bout du compte, là, il n'y a personne qui peut se glorifier devant le Seigneur. Chapitre 1, verset 29. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, Paul leur cite ici Jérémie 9, 24, pour les amener au fait que, en Jésus-Christ, Jésus-Christ est le seul, l'unique homme parfait, l'ultime homme, qui non seulement dans ce qu'il est, mais dans son œuvre, il est celui qui a amené l'ultime délivrance. Non seulement il est l'incarnation de la divinité, c'est Dieu fait homme, mais il est l'opérateur de la rédemption. C'est pas juste un beau discoureur, c'est celui qui est passé à l'action pour ramener l'homme à cet idéal, à ce plan originel, à la sagesse parfaite. OK? C'est pour ça que ça dit au verset 12, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Tout ça, on a ça en Jésus-Christ. Là, je ne vais pas penser trop vite là-dessus. Je vais prendre le temps d'expliquer. L'homme, depuis la nuit des temps, l'être humain, depuis la nuit des temps, cherche la façon d'atteindre le divin. C'est pour ça qu'il y a tellement de religions. L'homme est foncièrement religieux. Et donc, il cherche le divin, ou si vous voulez, il cherche la vraie vie. Dans le fond, ce qu'on a perdu en Éden, il y a quelque chose en dedans de nous qui cherche à le retrouver, n'est-ce pas? C'est pour ça que les religions vont parler de sagesse. C'est pour ça qu'ils vont dire, « Ah, les religions ont beaucoup de choses en commun. » C'est vrai, c'est l'homme qui essaie de retrouver ce qui a été perdu en Éden. Autrement dit, l'homme cherche la sagesse qui sauve, c'est-à-dire la façon d'être libéré de cette chute et tous ses effets. Tu sais, ça a pas mal tout... Ça a complètement fait un fiasco, la chute. Toutes les relations, toutes les dans nos cœurs, tout est brisé par la chute. Et l'homme, dans sa religiosité, voudrait bien trouver la façon de renverser ça, d'essayer de trouver la façon de régler ce problème du péché. Mais Paul, ici, l'essence de son message aux Corinthiens qui sont des Grecs, de la culture grecque, il leur amène que la sagesse est une personne. C'est Dieu incarné, Jésus-Christ lui-même, Jésus la sagesse même. Et Jésus est celui qui peut nous permettre d'expérimenter, de vivre cette libération. Que ce soit pas juste de la théorie, mais d'être vraiment libéré de cette chute, de tous les effets qui vont avec. C'est ça que Paul présente aux Corinthiens. Toute qu'une affaire. Il avait la réponse. Il avait la seule réponse. Puis au verset 9, on l'a lu, lorsqu'il dit, mais ce sont, ici c'est une citation d'Ésaïe 64:3, bon, avec l'adaptation par le Saint-Esprit, il y a certaines petites différences, mais c'est inspiré. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Cette belle citation d'Ésaïe nous réfère au trésor, au mystère de la sagesse de Dieu qui est en Jésus-Christ. Je vous lis là-dessus, Colossiens chapitre 2. « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Tout ce qu'on peut connaître sur la sagesse, sur la connaissance, est à un endroit, c'est en Jésus-Christ. Et c'est ça que Paul leur présente. Et dans le fond, Dieu a révélé ces choses à son peuple, aux croyants, aux rachetés par le sang de Christ, et c'est évident que c'est l'œuvre de Dieu, c'est ça le point. C'est pas justement avec un philosophe qui est donc renommé, qui lui a réussi à trouver la clé de la sagesse. Non, c'est pas d'origine humaine, cette sagesse salvatrice, cette sagesse parfaite, cette vérité du salut, elle est d'origine divine. Et c'est pas simplement en observant la création, la nature, les preuves qu'on peut voir de l'existence de Dieu qu'on pourrait le trouver. C'est pas non plus avec toutes les pensées humaines, les élucubrations de la pensée humaine rationnelle, subjective, qu'on peut arriver à trouver cette sagesse-là. C'est à ça que les Grecs se vouaient, d'une façon presque obsessionnelle, comme je le disais. En fait, ils perdaient bien du temps. Ça nous dit qu'à Athènes, ils passaient leur journée à faire ça. Et notre texte enseigne, dans le fond, que Dieu révèle la profondeur de sa rédemption. Dieu révèle ses profondeurs. Il les révèle en Jésus-Christ et il le fait. Regardez, on a lu le verset 10 et on a lu aussi avant le verset 11. La révélation, c'est le concept que Dieu s'est montré. Dieu a pris l'initiative de se faire connaître. C'est ça la révélation. C'est Dieu qui, de son propre initiative, se révèle à l'homme. Et plus que juste dans la nature, dans les Écritures et dans l'incarnation qui est en Jésus-Christ. On a aussi toute la question de l'inspiration aussi, comment Dieu fait connaître cette sagesse. On a lu le verset 12, regardez aussi le verset 13, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et ça réfère, dans le fond, à ce que Paul écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, Dieu a fait connaître ses profondeurs par la révélation, par l'inspiration, et aussi, pour les enfants de Dieu, par l'illumination. Regardez verset 14. « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ, et ça, c'est par l'illumination du Saint-Esprit. » Donc, ce que j'aimerais qu'on fasse, ça c'était juste en guise d'introduction, j'aimerais qu'on fasse dans ce message simplement, regardez les trois groupes de personnes auxquelles Dieu révèle ses profondeurs. D'abord, au verset 14, ça nous parle de l'homme naturel. C'est qui ça, l'homme naturel? C'est l'homme irrégénéré. C'est l'homme qui n'est pas encore passé de la mort à la vie. C'est l'homme dans son état naturel en Adam. OK? Et j'ai référé au verset 18 à 31 du chapitre 1, où est-ce que Dieu nous dit qu'il confond la sagesse de ce monde avec avec sa folie et qu'il confond les choses fortes avec sa faiblesse. Mais regardez surtout au chapitre 2, versets 1 à 5. Ça dit « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul, ici, dans sa défense de l'Évangile, du message de Jésus-Christ, il met l'accent sur le fait que sa prédication, lorsqu'il est allé à Corinthe et qu'il a prêché Christ, Christ crucifié, il n'était pas comme les Grecs qui prêchaient. Il y avait des prédicateurs, hein? Puis ils se donnaient à ça, comme je disais, comme un sport national. Et spécialement, il y avait toute la montée de la pensée gnostique. Gnostique, ça veut dire la connaissance, une espèce de connaissance mystique pour atteindre au divin. Puis là, c'est une sagesse que les autres n'ont pas, puis nous, on va vous dire des choses mystérieuses, puis tout ça. C'est carrément tout satanique, et c'est de ce monde, ce n'est pas de Dieu. Ces gens-là employaient un langage très sophistiqué. Fait qu'il était impressionnant. Ils parlaient là, avec prestance. Puis, vous savez, il y avait plusieurs types de grecs à l'époque. Vous savez que notre Nouveau Testament est écrit dans un grec commun. Un grec que tout le monde pouvait comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu a mis ses biscuits sur la tablette d'en bas pour que tout le monde puisse y avoir accès. Mais ces philosophes, ces gens, eux autres, ils parlaient avec un grec très sophistiqué. Que c'est seulement les gens éduqués qui pouvaient comprendre. Ça faisait partie de toute leur pensée ici. Mais Paul dit, je ne peux pas aller comme ça, moi. Je ne peux pas aller avec cette grande prestance, ce langage compliqué. Il dit, je suis allé D'abord, il est allé dans un état de tremblement, il était dans un état de faiblesse et de tremblement, et sa prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, de ce que l'homme peut faire, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et ça, c'est pas la seule place où est-ce que ça en parle. Paul, eux autres s'appuyaient sur les ressources humaines, les discoureurs du siècle, qui avaient, OK, pour essayer de séduire, amener les gens à leur cause. Vous savez quoi? C'était vain. Il n'y avait pas de salut, il n'y avait pas de puissance salvatrice. Mais Paul, lui, même s'il était dans la faiblesse, son discours, c'était le discours des paroles de vie. Des paroles qui libèrent, qui amènent la liberté, qui affranchit pour de vrai. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce que Paul prêchait, même dans sa faiblesse. Il s'appuyait sur les ressources divines de la parole. Écoutez ce que ça dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Puis il s'appuie aussi sur la ressource divine du Saint-Esprit. On a vu ça dans notre texte, mais aussi une référence parallèle à 1 Thessaloniciens 1:5. Notre évangile n'a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, afin car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés parmi vous à cause de vous. Donc Paul s'appuyait sur les ressources divines pour amener son message. Maintenant, pourquoi je prends tout le temps d'expliquer ça, puis c'est dans notre texte? Paul avait l'authentification de son message, pas dans ce que lui était, dans ce qu'il pouvait donner comme impression humaine. Il y avait l'authentification par Dieu lui-même, par la marque du surnaturel. C'est-à-dire que quand il prêchait l'Évangile, les vies étaient transformées. Ce message avait en lui la semence de la vie. Et c'est ça qu'il veut amener. Ça l'avait comme produit. Le salut des âmes, c'est un message rédempteur, un message libérateur. C'était pas juste des vains discours pathétiques de la sagesse humaine. Et au verset 4, lorsqu'il nous dit que sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs ou pathétiques de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, je veux qu'on comprenne ça avec une illustration ici du livre de Daniel. Vous savez, dans Daniel, dans le chapitre 1, on a l'introduction à Daniel, qui est un de ces jeunes hébreux qui était de ceux qui étaient éduqués, de ceux qui étaient les plus riches et que le roi de Babylone avait amené en captivité. Puis là, il voulait les brainwasher. Okay? Il voulait laver leur cerveau dans la culture des Chaldéens, la culture païenne. Et là-dedans aussi faisait partie de ça toute la. C'était pas juste dans les lettres et les chiffres, parce que aussi, vous savez, les Babyloniens étaient très bons en mathématiques. Donc, ils étaient non seulement éduqués à ce niveau-là, mais aussi tout au niveau culturel. C'est pour ça qu'ils ont changé leur nom avec les noms de leurs dieux. On dit Shadrach, Meshach, Abednego. C'est des noms païens, ça. Puis, comment il s'appelait, donc, Daniel? Il l'appelait Belteshazzar. Puis, c'est pas leur vrai nom. Eux autres avaient tous des noms qui réfèrent à Dieu. OK? Mais ils avaient changé ça, puis aussi, ils avaient changé leur alimentation. Ça faisait toute partie de cette conformité qu'il voulait leur amener. Mais Daniel a pris position, il a mis sa confiance en Dieu, on va en parler juste un peu plus dans un instant, mais je veux juste souligner pour l'instant que, un peu comme Daniel, Paul, ici, était en position d'influence auprès de ceux qui étaient auprès de lui, majoritairement des perdus. Hein, la culture grecque était très éloignée du vrai Dieu, comme la culture babylonienne, mais son influence venait de la ferme résolution de son cœur. Comme ça dit que Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi, Paul avait cette résolution, cette assurance devant Dieu qui était utilisée pour avoir une influence divine auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Autrement dit, pour Paul, Dieu faisait connaître ses profondeurs à l'homme naturel par la prédication de la croix. C'est pour ça qu'il dit, je suis allé chez vous là, avec une seule pensée. C'est prêcher Christ et Christ crucifié. Et c'était la résolution de son cœur. Quand il allait là-bas, il n'y avait pas deux idées. Il y avait une idée. Je vais aller prêcher le salut en Jésus-Christ parce qu'il n'y a rien d'autre de plus important qu'ils ont besoin. Mes amis, s'il y a quelque chose que les chrétiens ont besoin d'avoir, c'est voir que le besoin de ce monde, c'est pas que tout aille comme on voudrait, c'est pas que qu'on rentre dans le combat des mesures des choses sociales, mais c'est qu'on prêche Christ et Christ crucifié. Parce que même si les gens s'en vont, puis qu'ils meurent, puis qu'ils ont eu une vie meilleure, moins pire ou tout ça, la question c'est où est-ce qu'ils vont aller? Et c'est seulement Christ qui est la différence entre l'éternité au ciel ou en enfer. Et c'est ça que le monde a besoin. Et c'est ça que l'Église de Jésus-Christ doit proclamer haut et fort sans jamais être freinée. Si on perd ça, le sel perd sa saveur. Et à quoi ça sert qu'on soit ici sur terre? Et c'est ce que Paul prêchait et il le faisait par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, peut-être que tu es ici, puis tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur. As-tu entendu l'appel de la croix? L'appel à la repentance, parce que la Bible dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'appel de la croix, c'est l'appel à se confier dans l'œuvre parfaite de Christ. Il a tout accompli, et à cause de ça, moi, j'ai plus rien à faire de moi-même, essayer d'impressionner Dieu avec mes œuvres, avec ce que je fais, mais de me confier uniquement et simplement dans cette œuvre parfaite que Christ a accomplie sur la croix. Et il est vivant pour sauver quiconque s'approche de lui par la foi. Si aujourd'hui tu ne l'as pas encore reçu, voici deux versets que je veux te partager. Tournez-vous vers moi, ça vient d'Ésaïe ça aussi. Ésaïe 45, 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Écoutez encore du même prophète, chapitre 51, verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Ça m'amène au deuxième groupe de personnes auquel Paul s'adresse, non seulement il s'adresse à l'homme naturel avec la prédication de la croix, qui est le seul espoir pour quelqu'un dans cet état-là, mais aussi, il s'adresse aussi à l'homme charnel. Dans le chapitre 3, versets 1 à 5, on n'a pas encore lu ça, on va le lire maintenant. Regardez ce que ça dit. « Pour moi, frère, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon ce que le Seigneur a donné à chacun. » Dieu révèle ses profondeurs même à l'homme charnel. Mais ce qu'on voit ici, et quand on compare à ce qu'on a déjà lu, ici il dit, « J'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes spirituels, mais charnels, vous êtes comme des enfants, comme des bébés, vous n'êtes pas matures. » Et au verset 5, quand Paul parle tout de sa prédication qui est amenée par le Saint-Esprit, le message de la croix, ça nous dit au chapitre 2, verset 5, « Afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et c'est le problème de la personne charnelle, c'est qu'elle s'appuie sur la sagesse des hommes et non sur la puissance de Dieu. Et ce qui est en jeu en bout de ligne, avec cette question de la chair, c'est notre influence sur les autres, c'est-à-dire sur quoi ou en qui repose notre confiance et à quoi on amène les gens à mettre leur confiance pour ceux qui sont sur notre cercle d'influence. Parce que cette confiance va être soit sur la sagesse des hommes ou sur la puissance de Dieu. Prenons l'exemple d'une illustration ici, Abraham. Abraham, est-ce qu'il n'y avait pas l'opportunité de s'appuyer sur la sagesse des hommes? Alors, une femme à cet âge-là, c'est plus normal qu'elle ait des enfants. Puis... Ah ben, Agar, ça doit être... C'était la sagesse des hommes, ça. Mais heureusement, regardez, je veux juste vous citer ce que ça dit dans Romains, comment que finalement, il a été enseignable, il est un exemple, pas de perfection, notre cher Abraham, il est un exemple de rédemption. Dieu travaillait dans sa vie, puis il se laissait façonné par Dieu. Puis c'est ça qu'on a besoin comme chrétien. Dieu ne nous demande pas d'être parfait, il nous demande d'être enseignable, d'être façonnable. C'est-à-dire, ce n'est pas à cause de lui seul, ici en parlant d'Abraham, que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Notre confiance, elle est en Dieu et dans sa puissance, comme avec Abraham qui ne s'est pas confié dans sa sagesse, mais dans le Dieu qui est capable de faire au-delà de ce qui est possible humainement. Maintenant, je vous lis une référence importante parce qu'ici, dans ceux qui prennent des notes, dans Hébreux chapitre 3, ça parle des charnels qui ne peuvent pas avoir la nourriture solide. Il y a un passage parallèle à ça dans Hébreux 5. Okay? Vous pouvez tourner, mais je vais vous le lire immédiatement. Hébreux 5, verset 11 à 14, ça dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu avoir besoin de lait et non de nourriture. Voyez-vous, ça parle du même sujet que dans Corinthiens. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Même chose qu'on voyait aussi dans Corinthiens. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, qu'est-ce qu'on comprend avec ça? Les deux passages mis ensemble. Dieu révèle la profondeur de sa rédemption, de sa pensée aux personnes charnelles avec les affaires élémentaires qui sont en Jésus-Christ. C'est comme des gens à la petite école. Vous savez, les choses élémentaires, quand ça parle des choses élémentaires, je crois que dans le contexte, ça réfère à ce qui est dans l'Ancien Testament avec les Hébreux. Ils connaissaient très bien l'Ancien Testament, ils connaissaient le tabernacle, les sacrifices et tout ça. Puis c'est merveilleux, ça pointe tout à Christ. Mais c'est les ombres des choses à venir. La réalité est en Christ. Puis nous, ce qui nous fascine, on est là, puis on voit ça. Waouh! Tout ça, on voit les trésors de l'Ancien Testament, puis ça nous ramène à Christ. Mais si on voit juste ces choses-là en tant que telles, puis on s'arrête là, ben on passe à côté de celui de qui ça nous dépeint, ok? Et c'est ça, les gens ici étaient aux choses élémentaires. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. Maintenant, c'est quoi aller plus loin? Si la réalité est en Christ, c'est quoi cette ultime réalité? Ben, je vous donne des versets du Nouveau Testament qui vont répondre à ça. Puis je vous dis, c'est le fait qu'on est unis à Christ dans sa mort et sa résurrection. Ces choses-là étaient annoncées, c'était des ombres. Mais là, maintenant, en Jésus-Christ, à cette heure que l'œuvre du calvaire est accomplie, que la résurrection est accomplie. Maintenant, l'ultime réalité pour l'enfant de Dieu, c'est qu'il est uni. Amen. Uni à Christ dans sa mort et sa résurrection. Je vous lis quelques passages en rafale là-dessus. Écoutez ce que Paul dit dans Philippiens 3, 8 à 11. « Et moi, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, c'est ça ici, l'union et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour y parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Écoutez aussi, Éphésiens 3, 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, sa grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. C'est ça le. Puis évidemment, on ne peut pas passer à côté de Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Maintenant, écoutons ce que Pierre a à dire là-dessus, sur cette même grande vérité de notre union avec Christ. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que vous deveniez participants de la nature divine. On est unis à la nature divine en Jésus-Christ, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, qu'est-ce que tout ça nous enseigne? C'est ça la réalité de la vie chrétienne. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est à être uni à Christ. Dans sa mort, on est mort au péché et vivant pour Dieu. C'est ça le trésor de l'homme spirituel. Puis on va en parler dans un instant, mais pour le charnel, c'est au-dessus de sa tête. Il est encore aux choses élémentaires. Prends pas, touche pas, fais pas. Il supporte pas cette nourriture solide. Il est un bébé en Jésus-Christ, il est un enfant. Pas de façon positive comme désirer le lait de la parole, mais d'une façon négative comme une croissance qui est atrophiée, qui est arrêtée. Et là-dessus, je pense qu'on a une description de cet état spirituel dans 1 Pierre, au chapitre 1. Ça dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agitée par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Puis une autre référence à cette immaturité, cet état d'enfant, que quelqu'un, au lieu d'être dirigé par l'Esprit, de vivre à la lumière de la croix de ce qu'il est en Jésus-Christ. Voici aussi ce que ça donne dans Éphésiens chapitre 3, au verset 13. Ça dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, ainsi nous ne serons plus. » Mais vu l'état chrétien, c'est de plus être des enfants flottants et emportés. Voyez-vous, ça réfère à la même image qu'avec Jacques, qu'on vient de lire. Flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Maintenant, la pensée de quelqu'un qui est dirigé par sa chair est en lutte constante. Entre la volonté de Dieu versus la volonté de sa chair. Entre la joie du Seigneur et les plaisirs du monde. Il y a cette lutte. Puis en passant, quelqu'un de charnel, c'est pas un état perpétuel. Puis dire, lui, tu lui mets un collant, puis là, lui, ça, c'est quelqu'un de charnel. Puis c'est pas normal d'être charnel. C'est un état de faiblesse, une tendance charnelle, tenace, de notre nature fondamentale. Vous savez quoi? Si quelqu'un a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu lutte contre ça, travaille, puis donne la victoire là-dedans. C'est pas un état constant à dire ah, « ben moi, je suis le même, qu'est-ce que tu veux, je suis condamné à être charnel. » Non! C'est pas ça la vie chrétienne. D'ailleurs, je vous donne un autre passage parallèle là-dessus, où est-ce qu'on voit tous les fruits de cette chair dans... Puis là, genre, tu manges pas ces mots, là, je vous avertis, là. C'est pour un public averti. « Adultère que vous êtes! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » Ah, excusez, non, j'ai pas lu le bon. Ça, je voulais commencer au verset 1. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui luttent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voyez-vous, cette dominance de la chair. Puis là, c'est là qu'il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui va être ami du monde sera ennemi de Dieu. Autrement dit, quelqu'un comme ça, dans cet état-là, il est dans un combat tout le temps. Il est dans la lutte de Romains 7. Je fais ce que je veux pas, je fais pas ce que je voudrais faire. Il n'est pas encore rentré dans Romains 8, ou pour prendre l'expression de Watchman Nee, il n'a pas franchi le seuil de la victoire. Et le problème, c'est que quelqu'un comme ça se contente des choses élémentaires, extérieures, religieuses, superficielles. Et c'est là le danger, c'est un grand danger qui menace nos vies, nos familles, nos églises. Et c'est quand que Dieu, dans sa bonté, nous délivre de ça, qu'on goûte comment le Seigneur est bon, puis on voit, c'est rien ça. Et je dirais là-dessus, tu sais, le thème de l'année 2021, c'est le Dieu qui révèle. N'est-ce pas que Dieu a révélé des choses par rapport à ça? On s'entend là, puis il y a des visiteurs ici, puis tout ça. On vient avec une certaine mesure de foi ici, en disant, bon, OK, on fait peut-être pas tout exactement. Puis je pense, tu sais, puis on a eu même des moments assez... où est-ce qu'on était un peu nerveux. Mais écoutez, est-ce que on n'est pas en train d'agir comme dans le psaume 27? Où est-ce qu'on met notre foi en Dieu? L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Que les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré tout cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Des fois, vous voyez rocher dans la Bible, ça veut dire Jésus-Christ. Comparant ça, puis en passant aussi, ça dit dans Proverbe 29, 25, « La crainte de l'homme tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Maintenant, si on met ça en contraste avec ce que ça dit dans Job, chapitre 31, verset 33 à 34, « Si comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'écart, n'osant franchir ma porte. » Peut-être que Dieu a référé à où notre crainte? Est-ce qu'on a la crainte de l'Éternel ou on a la crainte des hommes, la crainte du danger, la crainte? Et laissez-moi avancer ce matin que je crois qu'il y en a un qui est motivé par la chair, l'autre qui est motivé par l'esprit. Comment est-ce qu'on peut être agréable à Dieu? Par la foi. Et l'esprit nous dirige toujours à nous confier en Dieu par la foi. Mais la Bible nous met en garde que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Je vais juste amener ça, je vous laisse connecter les petits points ensemble par vous-même, mais est-ce que ça n'amène pas un éclairage spirituel sur ce qu'on peut vivre en ce moment en vertu des œuvres de la chair versus de l'esprit, et que Dieu a révélé dans 2020-2021 où était notre confiance? Et en passant, quelqu'un qui s'appuie sur la chair, sa confiance est dans les moyens de la chair, la loi, le faire. Je fais ça, donc je suis en sécurité. Le juste, il dit, je place ma confiance dans celui qui est ma sécurité. La sécurité, mes amis, elle n'est pas dans ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Parce que ça ne sera jamais assez, ça ne sera jamais parfait. Notre sécurité est dans celui qui a tout fait pour nous. Et notre sécurité, elle est dans celui qui est souverain, qui est au contrôle. Et quand on met notre confiance en lui, la Bible nous dit qu'on ne chancelle pas. On ne va pas s'en aller comme ça, sans assurance. Ça m'amène au troisième et dernier groupe de personnes à qui Paul s'adresse. L'homme spirituel. Dieu révèle ses profondeurs à l'homme spirituel. On est dans Corinthiens chapitre 2, regardez verset 15 à 16. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ici, je vais vous donner une référence parallèle. Je l'ai lu tantôt, mais Paul, quand il parle, il dit que Paul qui était... Il excellait dans la religion de son époque. C'est un champion. Puis dans Philippiens, après avoir donné son pedigree spirituel, lui, hébreu, né d'hébreu, pharisien, puis quant à la loi irréprochable, il disait pas ça qu'il n'a jamais péché, mais selon comment les gens le voyaient à l'époque, wow! Ça, c'était le big shot. OK? Mais il dit qu'il a regardé toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il aurait renoncé à sa réputation, à comment les gens les voyaient, à quoi, dans les choses dans lesquelles il mettait sa confiance, puis même il les regardait comme de la boue afin de gagner Christ. Qu'est-ce qui avait changé dans Paul? Christ était devenu son trésor. Christ était devenu son tout. Et il n'y a rien au monde qui pouvait rivaliser avec ça. Il avait trouvé celui qui est la perle de grand prix. Il avait trouvé la rose de Saron. Il avait trouvé celui qui était tant attendu, et c'était le plus grand de ses trésors. Et comprenons que l'homme spirituel, bien qu'il soit sujet aux mêmes passions de la chair que tout le monde, n'est pas contrôlé par celle-ci, parce qu'il est contrôlé par l'Esprit de Jésus-Christ en lui. Et mes amis, Les Anglais disent, you get what you're looking for. On obtient ce qu'on cherche. Si on cherche la vraie vie que seul Jésus donne, si on cherche cette vie abondante que Christ a promis qu'il donne à ses brebis, si on le cherche lui de tout notre cœur, on va le trouver. C'est ça l'idée de l'homme spirituel. C'est pas quelqu'un, encore je le répète, qui est parfait puis qui regarde les autres de haut. C'est quelqu'un qui a les yeux sur Christ. Il n'y a pas les yeux sur les autres, ça, c'est la chair qui fait ça. Ah, moi, je suis meilleur que toi, puis nous, on fait ça, vous autres, vous ne faites pas ça. C'est la chair, hein? Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. Non, l'homme spirituel voit qu'il est rien. Il est pauvre en esprit. Mais il voit qu'en Christ, il a absolument tout. C'est pour ça qu'il regarde tout le reste comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Si j'ai Christ, j'ai absolument tout ce dont j'ai besoin. Maintenant, si on résume dans une coquille de noix, comme dirait Kevin. In a nutshell, pour ceux qui ne l'avaient pas compris. C'est ça que Dieu a fait. Tu sais, qu'est-ce que Dieu a fait dans la dernière année et demie, puis qu'est-ce qu'il continue à faire, ici dans notre église? Je crois qu'il rassemble ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ils ne sont pas parfaits. En tout cas, moi, la dernière fois que j'ai vérifié, je n'ai pas encore trouvé un. Malgré, ça dit, il prêche la sagesse parmi les parfaits. Là. Ça, c'est une expression de ce qu'on est en Jésus-Christ, là, aux yeux de Dieu. Je suis content de dire que je suis revêtu de la justice de Christ et que Dieu ne voit pas mon péché, il me voit en son Fils bien-aimé. Et ça, si vous êtes un enfant de Dieu, c'est comme ça que Dieu vous voit aussi. Vous êtes parfait aux yeux de Dieu parce que vous êtes en lui. Et j'aime ce verset aussi dans Malachie. Écoutez bien ce que ça dit dans Malachie, chapitre 3, verset 16. « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. » Oui, on peut penser à quelque chose. « L'Éternel fut attentif, il écouta, il ouvrit un livre, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Moi, c'est ce que je vois que Dieu a fait en 2020-2021 ici. C'est pour ça qu'il y a un grand enthousiasme à se faire prêcher Christ. Que les gens disent, je viens ici pour magnifier le Seigneur Jésus-Christ dans l'adoration, dans la prière, parce que je compte tout le reste comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. C'est le trésor de grand prix, celui que le Saint-Esprit nous a ramené devant les yeux dans sa grande bonté. C'est ce qui fait que des gens sont arrivés out of nowhere, de nulle part. Ou d'Afrique, là, mais bon, ça arrivait. Mais c'est comme en plein milieu de ce qu'on n'était pas supposé avoir de visiteurs, boum, puis qu'est-ce qu'il dit? Waouh! C'est quoi l'attachement? C'est pas parce qu'on est donc beau qu'on est donc fin. C'est parce que Christ, au milieu de nous, est là, il agit, il est vrai. Je pense qu'on a goûté d'une façon fraîche, réelle et nouvelle comment le Seigneur est bon. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me redonnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Oh, que ta fidélité est grande! Dieu était tellement bon, mes amis. Ah, j'ai-tu aimé tous les temps qu'on a eus? Avec les espèces de disconnexions mentales, à un moment donné, que ça faisait? Non, j'ai pas apprécié tous ces moments-là, mais je regarde comment notre Dieu transforme le mal en bien. Comment Dieu rémunère ceux qu'il cherche. Comment le Dieu de la Bible est le Dieu vivant qui vraiment, lorsqu'il est au milieu de nous, oh, il fait ce que juste lui peut faire. Béni soit son nom. Hey, je veux vous donner une couple de choses dans Daniel. C'est drôle, j'ai pas lu là-dedans dernièrement. C'est juste, je pense vraiment le Saint-Esprit qui m'a dirigé. Et on se dirige vers la conclusion du message. Mais ça nous dit dans le chapitre 3 de Daniel qu'il y avait des Juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, leur nom païen, qui étaient dans la province de Babylone. Et les gens sont allés voir le roi et disent, « Ces hommes ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Qu'est-ce qui arrivait? Mais dans Daniel, on a quelque chose qui se passe. On a des gens qui avaient une confiance en l'Éternel. Et il y a un point commun entre ce qu'on voit dans le chapitre 1, 2 et 3 de Daniel. Il y a une révélation de la personne et du caractère de Dieu par l'intermédiaire de ceux qui se confient en lui. À cause que Daniel s'est confié dans la fidélité de Dieu. Hein, il a dit, OK, je vais manger le régime végétarien, je ne vais pas prendre ça. Mon Dieu est fidèle, il va s'occuper de moi. Dieu s'est révélé comme étant fidèle. Il y avait même plus d'embonpoint que les autres qui avaient mangé la diète du roi. Et le même principe se voit dans le chapitre 2, où est-ce que tous les astrologues, les magiciens, puis tout ça, ils étaient pas en train d'expliquer le rêve, puis donner le rêve, puis de trouver l'explication. Mais Dieu, Daniel s'est confié dans la sagesse de Dieu et dit, « Moi, je ne sais pas, mais il y a un Dieu au ciel qui le sait. Puis je vais aller le voir, puis c'est lui qui révèle les secrets des cœurs. » Et ici, avec Shadrach, Meshach et Abednego, juste avant d'arriver à la fournaise ardente, on voit qu'ils se sont confiés dans la puissance de Dieu. Et Dieu s'est révélé comme étant le Dieu tout-puissant. C'est pour ça qu'on peut dire à Nebuchadnezzar, lorsqu'il était vraiment choqué contre eux autres, qu'on peut lui dire que leur confiance était dans le Dieu qui délivre. Et je veux juste vous lire ça au verset 17. « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô Éternel. » Savez-vous quoi? Le roi a fini par l'admettre. Chapitre 28 du même chapitre dit « Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. » Et Dieu s'est révélé à travers ceux qui ont fait confiance et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Je pense qu'on est à une époque de Shadrach, Meshach et Abednego. J'ai partagé hier un message qui a vraiment béni mon cœur. C'était mon frère qui l'avait partagé. Et ceux qui connaissent M. Mick, pas lui, un autre, M. Mac, pas Donald, M. MacArthur. J'ai partagé le message. Puis je trouvais que ça l'amenait une lumière vraiment intéressante sur ce dont on parle là. Et une chose qui souligne, je ne sais pas si tu sais, quelqu'un m'a dit, je ne sais pas c'est qui, mais ce qu'on apprend de l'histoire, c'est qu'on n'apprend pas de l'histoire. Qui est le plus grand persécuteur de l'Église de tous les temps? Dans l'Ancien et Nouveau Testament, c'est qui a fait le plus souffrir le peuple de Dieu? C'est le gouvernement. Mais là, maintenant, c'est plus pareil. Là, ils sont rendus gentils maintenant. Non, mais je vous encourage à l'écouter, par exemple. J'ai amené quelque chose par rapport à Daniel, ce que je viens de dire là. Tu sais, souvent, on parle de Daniel comme un livre prophétique. Vous savez quoi? Daniel est d'abord un livre apologétique. C'est un livre qui défend, c'est une théodicée, une vindication de la personne, du caractère, de l'œuvre de Dieu devant les nations. Pourquoi? Parce que les nations avaient toutes sortes de faux dieux. Ça défend le Dieu qui est le seul vrai Dieu. Il y a toutes sortes de mal dans le monde, mais il y a un Dieu qui règne. Et c'est ce que Daniel veut amener. Et il fait ça par l'intermédiaire de son peuple. Et je pense que c'est important à comprendre parce que, malheureusement, avec Daniel, surtout Daniel, parce que Daniel, il y a beaucoup de prophéties très significatives là-dedans. Et je ne veux pas enlever la valeur à ça, mais des fois, ça nous fait oublier, ça nous voile la teneur apologétique du livre, où est-ce que Dieu révèle qui il est. Il révèle qu'il est le Dieu qui pourvoit, le Dieu sage, le Dieu tout-puissant. Et c'est ça le but premier du livre, c'est une révélation de Dieu. Oui, il y a de la teneur prophétique, mais c'est par la bande, c'est secondaire par rapport à cette première révélation. Et maintenant, ce que je veux amener, et c'est là-dessus que je veux terminer, vous savez, Dieu ne se révèle pas ses profondeurs, la profondeur de sa rédemption, juste pour un but académique, pour nous divertir, pour nous impressionner, pour passer du temps un dimanche matin. C'est dans un but rédempteur, dans un but de délivrance, qui révèle qui il est, son œuvre, sa personne. Et tout ça est culminé en Jésus-Christ, notre glorieux Seigneur et Sauveur. Et donc, je pose la question ce matin pour terminer. Est-ce que ce matin, tu reçois cette révélation de Dieu comme un homme naturel, en Adam? Si c'est le cas, la prédication de la croix, c'est ça ce dont tu as besoin. C'est le seul espoir. La croix, c'est le message de l'amour de Dieu pour réconcilier un monde rebelle par lui-même, pour lui-même. C'est le seul espoir d'être réconcilié avec Dieu. Je l'ai cité tantôt, c'est pas par nos œuvres qu'on est sauvés, mais c'est par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Si tu es dans ce cas-là, tu es peut-être confus. Mais savez-vous que ça dit dans... J'aime beaucoup ce passage-là, ce verset-là, dans Romains 10, 13. « Quiconque croit en lui ne sera point confus. Puis ça dit aussi que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si c'est ta situation aujourd'hui, tu peux être sauvé aujourd'hui. Peut-être que tu écoutes le message et ce que Dieu avait pour nous ce matin en tant que chrétien charnel, encore au lait, qui est inconstant dans toutes ses voies. Ça se démontre par une fidélité mitigée, par un engagement envers Dieu, l'Église locale, plutôt minimale. Une lutte constante avec la chair où tu es habitué à la défaite et tu es surpris des fois par la victoire. Si c'est la description de ton état spirituel, viens à celui qui te dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Viens à Dieu en ces termes pour jouir de ses promesses. Et finalement, si par la grâce de Dieu, tu es plus habitué à la victoire et des fois, oui, surpris par la défaite, parce qu'il n'y a personne qui ne lutte pas avec le péché, ben tu peux dire, si tu es dirigé dans ta vie, dans tes pensées, dans ton cœur, par Christ en toi, Christ qui est ta vie, tu peux dire que tu es une personne spirituelle. Glorifie-toi-en pas parce qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu. Et si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Et que tout ce qu'on fait, de toute façon, c'est à la gloire de Dieu. Mais si c'est ton cas, humblement, pauvre en esprit, viens à lui en disant, Christ est ma vie. Et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Et sa grâce est suffisante, même dans les pires épreuves. Sa grâce est là, elle est suffisante. Parce que, mes amis, tout comme un chrétien charnel n'est pas un état perpétuel et irrémédiable, un chrétien spirituel doit être constamment dans un état de dépendance, nourri, gardé par les paroles de vie, demeuré en Christ par une constante dépendance à la grâce de Dieu par le moyen de la foi. Merci Seigneur pour ce temps qu'on a pu prendre avec ta parole vivante et qui fait son œuvre dans tes enfants et qui convainc par le Saint-Esprit de péché, de justice et de jugement ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, ta parole a été proclamée, annoncée, maintenant on s'en remet à toi pour que tu accomplisses tes desseins. Tes desseins bienveillants, tes desseins de libération, de restauration, d'espérance. Seigneur, fais ton œuvre et que ton peuple ici rassemblé réponde à ce que tu as annoncé, déclaré ce matin de ta sainte parole. On te le demande au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Si vous voulez prier, vous avez l'occasion.